Session de rentrée par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 10 septembre 1995, deuxième conférence.
Comprendre la philosophie européenne, si vous ne savez pas ce que veut dire le mot Dieu. C'est vrai que le mot Dieu relève en premier lieu des traditions religieuses, mais le mot Dieu a été introduit en philosophie grecque. Il n'est pas confessionnel. Il a été introduit en philosophie grecque avec Platon, Aristote, les néoplatoniciens. Et donc, si vous voulez comprendre la philosophie grecque, vous êtes obligé de comprendre le passage du mot Dieu dans les traditions religieuses, où il y a une signification mythique, symbolique, métaphorique, et en philosophie, où il y a une signification propre de l'être premier, de la bonté en soi, de l'acte pur. Et c'est la même chose pour l'âme. Faut jamais l'oublier. Il y a quelques années, et ça demeure encore, une querelle provenant de ceux qui enseignaient la catéchèse et qui dirigeaient l'orientation de la catéchèse en disant on ne doit plus enseigner la distinction de l'âme et du corps. Distinction périmée. Et alors on mettait, et je l'ai constaté moi-même, en Suisse, dans la cathédrale à Sion. Je m'intéresse toujours à ce qu'il y a dans le fond des églises. Quand il n'y a personne, il reste toujours à la fin des messes des papiers distribués gratuitement pour tout le monde. C'est toujours très intéressant pour tâter le pouls. Alors j'ai lu ça. Interdiction d'employer la distinction de l'âme et du corps. C'est une distinction qui vient d'Aristote et qui a été gardée par Thomas d'Aquin. Mais les modernes ne l'emploient plus. Confer, Merleau-Ponty. Donc n'employez plus cette distinction. Alors, comprenons bien. Ce n'est pas une distinction grecque. C'est une distinction qui vient de l'Inde. Alors, dès que vous dites que c'est une distinction qui vient de tradition indienne, tout le monde se salue profondément. C'est quelque chose qui provient des traditions religieuses grecques, on pense tout de suite à Aristote. Et alors, on jase. Donc, premièrement, ça ne vient pas de tradition grecque, ça vient de tradition de l'Inde, c'est très intéressant ça. Deuxièmement, ce n'est pas Aristote qui l'a introduit en philosophie, c'est Platon. Alors on est sauvé. Troisièmement, la distinction de l'âme et du corps est une distinction nécessaire si on veut faire la philosophie du vivant, de l'homme vivant. Donc il faut la maintenir. C'est très significatif tout ça, vous voyez. Vous êtes sensible à ça, c'est les courants d'idées. J'ai entendu une fois quelqu'un que j'aime beaucoup du reste me dire ouvertement après une petite conférence sur l'âme que j'avais faite, exprès, demandée par eux. Au plan philosophique, l'âme n'est plus sur le marché philosophique. Donc, n'en parlons plus. Alors, quand j'étais seul avec lui, je lui ai dit, c'est le marché philosophique qui est le critère de vérité. Il m'a regardé, il ne comprenait pas. philosophie, donc il ne faut plus en parler. Si c'est la vérité, on doit encore, au contraire, en parler encore plus, parce que plus personne n'en parle. Alors, dernier point de remarque, le septième moment de la philosophie, la découverte de l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Cette septième partie de la philosophie ne repose plus sur l'expérience. Et donc, cette septième partie de la philosophie a une voie d'accès tout autre que toutes les autres parties de la philosophie. Puisqu'au plan philosophique, je n'ai pas d'expérience directe de l'existence de Dieu. Je dois la découvrir, l'existence de Dieu. Je dois la dévoiler de la manière la plus précise qui soit, par une démonstration a posteriori, qui, au dire d'Aristote, est une démonstration imparfaite, analogique. Et donc, n'employons pas trop aujourd'hui le mot de démonstration d'existence de Dieu. Parce que ça fait une terrible équivoque. Les gens ne pensent qu'à une démonstration scientifique. Une démonstration a priori. À partir de définitions. Ils ne comprennent plus rien d'autre. Alors il vaut mieux dire dévoilement ou découverte de l'existence d'être premier par voie d'une démonstration a posteriori, c'est-à-dire d'une démonstration très imparfaite. Cela, c'est important de le noter, parce qu'autrement, on ne voit plus du tout ce que ça veut dire. Et c'est à partir de la découverte de l'existence de l'être premier que les traditions appellent à Dieu, que je découvre ce qu'est l'adoration au plan philosophique. Et donc l'attitude religieuse. Le philosophe doit revendiquer aujourd'hui qu'il peut, en tant que philosophe, découvrir ce qu'est l'adoration. Et il peut, en tant que philosophe, découvrir ce qu'est la création. Et à partir de la découverte de la création, il peut porter un jugement de sagesse sur toutes les autres parties de la philosophie. Ayant découvert la création, il y a une relecture de toute la philosophie dans la lumière de l'acte créateur de Dieu. Une relecture de la dimension de l'homme dans la lumière de l'acte créateur de Dieu. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Parce qu'alors, on peut parler d'art religieux dans cette lumière, d'éthique religieuse dans cette lumière. Se poser la question, y a-t-il une politique religieuse? Y a-t-il une philosophie spéculative religieuse? Je ne conclus pas. Y a-t-il une philosophie du vivant religieuse? Y a-t-il une philosophie première religieuse? C'est très très important, surtout aujourd'hui. Et c'est au terme de toute la philosophie que on reprend tout dans une nouvelle lumière. C'est pour ça que je dis c'est une relecture de toute ma philosophie dans une nouvelle lumière. Mais c'est une relecture, non pas du tout pour faire du surplace, comme la relecture psychologie. On fait du surplace. Là, c'est une relecture d'en haut. Quand vous êtes monté très haut, en montagne, tous les 1000 mètres, vous avez une nouvelle vision. Et la carte Michelin met beau paysage. Quand vous regardez. Eh bien, en philosophie, dès que je découvre l'être premier comme créateur de mon âme, je peux dire qu'il y a un regard nouveau, un regard de sagesse sur l'homme, activité artistique, l'homme dans l'amitié, et ainsi de suite. Toutes les parties de la philosophie y passent. Et là, je découvre le caractère extrêmement concret de la philosophie, grâce à la sagesse. La sagesse à la fois atteint ce qu'il y a de plus élevé, adorer et contempler Dieu, et en même temps ce qu'il y a de plus singulier dans la lumière de l'acte créateur de Dieu. Je saisis l'homme concret, Pierre, comme une créature. Parce que Dieu ne crée pas l'universel. Il laisse l'homme créer l'universel. C'est la seule chose que l'homme crée. C'est l'universel. Dieu crée toujours des réalités singulières. Parce que seules les réalités singulières existent. Et donc la philosophie, en tant que sagesse, dépasse tout le point de vue universel. Atteindre ce qu'il y a de plus concret, ce qui existe, l'homme existant. Après ces 7 parties de la philosophie, je peux, dans un regard de réflexion critique, essayer de comprendre comment mon intelligence peut-elle atteindre l'existence de Dieu? Comment mon intelligence vit comme esprit et un esprit dans un corps? Comment l'intelligence peut-elle atteindre l'universel? Comment mon intelligence peut-elle atteindre des principes propres? Et ainsi de suite. Et je saisis le comment de ma vie intellectuelle. Et ça, c'est très important. Puisque c'est en saisissant ce comment de ma vie intellectuelle que je peux le mieux saisir les erreurs de Descartes, du néoplatonisme, de Hegel, de Nietzsche, de Kant. quand je suis arrivé à ce sommet, avant ce sommet, avant ce regard réflexe sur ce que représente ma vie intellectuelle, c'est très difficile pour moi de critiquer. Il vaut mieux pas le faire. Il vaut mieux dire, si tu vas à droite, je vais à gauche, moi. Laisse-moi la liberté d'aller à gauche. Ou plus exactement, laisse-moi la liberté de te laisser aller dans une voie sans issue. Moi, j'aime mieux prendre une voie qui a une issue. Le réalisme philosophique a une issue, la découverte de l'existence de Dieu. Tandis qu'au contraire, toutes les idéologies athées sont des voies sans issue. Et parce qu'il n'y a pas d'issue, on retombe sur l'homme. Sur ma réflexion critique. Et c'est ma réflexion critique qui me finalise. Donc il y a la critique, il y a la logique. La logique, elle aussi, est une attitude de philosophie réflexive. Je réfléchis sur l'universel. C'est le propre de la logique. C'est l'universel qui intéresse le logicien. Ce n'est pas le concept. C'est la critique qui regarde le concept. Je dis ça parce que Maritain dit que la logique regarde les concepts. C'est pas vrai. La logique regarde l'universel. Ce que l'intelligence humaine est capable de créer. Et alors, la logique consiste à ordonner l'universalité de mes divers concepts. La logique, c'est pour que on puisse parler correctement, avec précision. La logique n'est pas la philosophie. Elle ne fait pas partie de la philosophie, comme la critique. C'est des attitudes réflexives pour corriger, mais pas pour inventer et découvrir. Donc la critique et la logique sont très importantes, mais ne font pas partie de la philosophie. Parce que ce qui fait partie de la philosophie, c'est de regarder l'homme existant. Or, la logique, or, l'universel ne fait pas partie de l'homme existant. Et la critique regarde l'intentionnalité. Vous voyez, vous pourriez dire ceci. En gros, cela reste vrai. Vous pouvez dire ceci. Philosophie réaliste regarde ce qui est. L'homme existant. Le tout d'éthi grec. Pierre. La critique. La critique considère l'intentionnalité. Certains distinguent différents degrés d'intentionnalité. C'est vrai qu'en critique, on a une méthode qui est la méthode de celui qui fait des fouilles, qui recherche la méthode archéologique pour saisir ce qu'il y a de tout à fait fondamental dans ma vie intellectuelle, c'est le comment. Regarde l'universel qui présuppose le concept. Le concept, c'est l'intentionnalité. Le concept. Fait partie de l'intentionnalité. Vous voyez, l'intentionnalité, c'est ce par quoi une forme est intentionnelle. La forme intentionnelle, c'est très facile à comprendre. Et c'est capital. Vous n'avez qu'à penser. Quand vous avez une marche toute la nuit, que vous entrez dans un petit village, vous voyez à 4h du matin, 5h du matin, une seule dans la cave, un seul lieu éclairé. Vous avancez, vous voyez que c'est une boulangerie, puis vous sentez le petit pain, le pain. Vous prenez un petit déjeuner intentionnel. Ça vous nourrit. Mais si vous êtes un peu réaliste, vous dites ce petit déjeuner intentionnel, ça fait partie du préambule du petit déjeuner pour éveiller l'appétit. Après, je vais acheter un vrai petit pain existant que je mange. Ça a l'air de rien. Mais ceux qui confondent la philosophie et la critique restent au petit déjeuner intentionnel. Et ceux qui confondent la critique, la philosophie et la logique, alors il n'y a même plus l'intentionnalité. L'universel a l'immense avantage d'être sans odeur, sans aucun goût. C'est devant vous. L'intentionnalité, vous le portez en vous. L'universel aussi, vous le portez. Mais l'universel qualifie l'intentionnel. Et alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ici, vous avez deux méthodes réflexives. Et ici, tout part du jugement d'existence. C'est l'expérience immédiate. La critique est très importante, la logique est très importante, mais à leur place. Bon, alors vous pourrez méditer longuement. Je vous demande de ne pas le faire trop longuement. Ce que on vous annonce comme cours, vous voyez qu'il y a une philosophie de l'art. Quelle philosophie de l'éthique, quelle philosophie de la nature, quelle philosophie du vivant, quelle philosophie première, quelle théologie naturelle, quelle critique. Il manque la logique. Pour avoir toutes les parties. Je crois que c'est très important de voir les points de départ de ces différentes parties de la philosophie. Parce que chacun d'entre nous, il faut entrer en philosophie par la porte qui nous est plus que naturelle. On entre en philosophie par la métaphysique, on entre en philosophie par la philosophie du vivant, on entre, et ainsi de suite. Il y a 6 portes, il y a 7 portes. Et même d'une certaine manière, vous voyez, en réalité, il y a 5 portes d'expérience. Une porte particulière, fondamentale, la philosophie première. Une porte très exceptionnelle, c'est la théologie naturelle. Mais c'est aussi une porte. Et vous pouvez ajouter la critique et la logique. C'est très curieux. Et toutes ces portes sont diverses, sont des avenues différentes. Vous avez ensuite la partie historique. La partie historique, pour nous, elle n'est jamais première. Elle est très importante dans l'ordre génétique. Et elle n'est pas première. Mais c'est la différence, si vous voulez, de l'enseignement qu'on donne ici, et l'instrument qu'on donne, et l'enseignement qu'on donne dans l'université française. Ordinairement, c'est l'histoire de la philosophie. Et le professeur se cache derrière celui qu'on expose. Et quand vous lui demandez, et vous, qu'est-ce que vous pensez ? Il n'ose pas le dire. C'est très rare. Il y en a, heureusement, qui osent dire moi, voilà ma recherche philosophique. Alors, l'introduction à la philosophie grecque, c'est capital. L'introduction à la philosophie d'Aristote, le traité du débat, c'est une excellente manière d'entrer en contact avec la philosophie d'Aristote, ainsi que l'éthique à Nicomaque, puis le stoïcisme, puis la philosophie moderne. Vous voyez qu'il y a en même temps des travaux dirigés, vous savez ce que ça représente. C'est important aussi pour être plus en contact avec les textes. Et puis, il y a théologie, alors non pas théologie naturelle, mais la théologie de Thomas d'Aquin. Et on vous donne différents aspects de la théologie, et c'est bon de les commencer dès ici. Il y a une seule chose qui est tout à fait particulière, c'est conférences privées. Les conférences privées, c'est en dehors, pratiquement, de ce que représente un enseignement. C'est pour le noviciat. J'empiète sur le permède, là. Il est d'accord. Je ne fais pas ça en sauvage derrière son dos, parce que je n'aurais pas écrit. La conférence privée qui prend des modalités très différentes un peu, selon ce que le permède m'indique, ce que les novices me disent, et ainsi de suite. Les thèmes sont très variés, mais ce n'est plus un enseignement philosophique ni théologique. Maritain dirait, c'est du pratico-pratique. C'est de l'ordre de la pédagogie, de la paideia, l'éducation monastique, religieuse. Et parallèlement à cela, il y a l'introduction catéchisme de l'Église catholique. C'est encore un cours réservé aux noviciats. Il y a deux cours réservés aux noviciats. Alors pour les conférences privées, ceux qui ne sont pas aux noviciats et qui désirent assister demandent. Ils font patte blanche pour pouvoir pénétrer. Mais ça reste ouvert, vous comprenez. Mais il faut la permission. Parce qu'il faut qu'on soit un public un peu homogène. Oui, dans la mesure où c'est quelque chose de beaucoup plus descriptif et moins universel. Alors, à côté de la théologie, il y a l'exégèse et l'histoire de l'Église. Et en dernier lieu, les langues nécessaires, puisque nous devons connaître le latin, et si possible, le grec. Ce sont des cours qui sont plus libres. Alors, dans la mesure où on est déjà trop pris, on ne les suit pas. On demande la permission de ne pas les suivre. Si on peut les suivre, c'est bon pour pour ceux qui ne savent pas le latin ni le grec. Vous voyez, je ne dis pas que vous faites votre choix là-dedans. Pour les étudiants qui font partie de la communauté religieuse, la communauté Saint-Jean, donc ils sont religieux, normalement ils doivent assister à tout. Si c'est trop, parce que c'est peut-être trop, ils demandent la permission au père maître. Celui qui est chargé des études, c'est-à-dire le père Marie-Dominique Coutière. Les étudiants laïcs,